Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'Accès libre. Aujourd'hui, on se rappelle ensemble des mois spéciaux d'octobre. Le premier, le mois du nanisme, qui est un handicap à prendre au sérieux. C'est l'occasion pour l'Association des personnes de petite taille de sensibiliser le grand public et les décideurs à la reconnaissance de ce handicap. C'est aussi le mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques et on reçoit le CIVA pour entrer dans ces lieux de culture. Côté service, on nous explique comment profiter des séances gratuites de consultation juridique avec le jeune barreau du Québec. Et côté élection, des nouvelles des élections dans la capitale nationale avec Michel Bédard de CKIA. Et en ouverture, Monique Lefebvre d'Altergo revient sur le café sur l'accessibilité tenu la semaine dernière pour mettre en lumière les engagements des principaux partis de Montréal. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le 4 octobre dernier, le regroupement montréalais en loisirs, sport et culture Altergo et Vues et Voix ont organisé un café accessibilité auquel étaient conviés les principaux partis politiques municipaux. Durant 2 heures, les organismes membres d'Altergo ainsi que d'autres invités ont échangé avec une candidate de l'équipe Coderre et un candidat de Projet Montréal sur les engagements de leur parti en matière d'accessibilité universelle. Aujourd'hui et d'ici le 5 novembre prochain, date du scrutin, on vous proposera des extraits et entrevues qui émanent de cet événement. Et en premier lieu, Monique Lefebvre, directrice générale d'Altergo, qui non seulement témoigne de ses impressions et analyse des propositions, mais nous rappelle les défis auxquels les partis de Montréal devront faire face au lendemain des élections. Nous sommes à la sortie du Café sur l'accessibilité universelle organisé par Altergo, où il y avait 2 représentants des 2 principaux partis politiques sur l'échelon montréalais qui ont, répondu aux questions des membres d'Altergo. Donc, je suis avec Monique Lefebvre, directrice générale de l'organisme. Bonjour, Monique Lefebvre.
Bonjour, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui avec nous.
Merci beaucoup, c'est un plaisir d'y être aussi et j'ose vous demander, quelles seraient vos premières impressions après ce café-rencontre déjà terminé?
Mes premières impressions, c'est qu'enfin, on parle avec des candidats, on parle pendant les élections d'accessibilité universelle. Nous avons un grand défi dans le milieu, c'est de positionner l'accessibilité universelle. Notre ambition, c'est qu'un jour, elle fasse partie des priorités discutées pendant les élections. On voit dans les derniers jours les priorités qui ressortent, puis l'accessibilité universelle, on a beaucoup à faire pour qu'elle puisse sortir. Mais au moins, je pense qu'il faut mobiliser notre milieu, se poser des questions, être capable d'avoir un discours qui se tient pour défendre l'accessibilité universelle. Parce que c'est pas personne d'autre que les gens qui sont concernés qui peuvent changer les choses. Alors, je suis contente qu'il y ait eu des discussions là-dessus, que les 2 parties ont délégué des gens, puis on a parlé d'accessibilité universelle.
Est-ce que vous trouvez quand même que les candidats, candidates ont répondu de manière satisfaisante à vos membres?
Je dirais qu'il y a eu 2 approches, parce qu'on avait une candidate qui est de l'équipe Coderre qui a le dossier de l'accessibilité universelle depuis 4 ans. Alors, sa connaissance des dossiers était plus approfondie. Elle connaissait davantage les gens. Puis, elle a amené, puis elle s'est positionnée. Elle a dit, voici qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le futur. Et on avait un candidat de l'équipe Projet Montréal qui vit avec une limitation, qui, pour lui, est dans ses débuts en politique, a vraiment amener les préoccupations majeures de Projet Montréal, mais peut-être moins expérimenter dans la partie des particularités administratives. Ça, c'est normal, mais je pense qu'il a vraiment amené son point de vue, vivant lui-même des limitations. Je pense qu'il est très conscient qu'il y a beaucoup à faire. Alors, j'ai vu que les 2 parties avaient accordé de l'importance à l'accessibilité universelle, puis ça, ben, je pense qu'on peut être satisfait de cela. Il reste beaucoup encore à faire, mais au moins, l'accessibilité est inscrite dans les préoccupations des partis.
Donc, vous sentez vraiment que de part et d'autre, il y a un vrai appui à ce que l'accessibilité universelle soit plus présente à l'avenir, tout dépendant qui gagnera, bien sûr.
Oui.
On dira ça comme ça.
Bien, c'est nouveau parce que dans les dernières élections, on n'avait pas ça. C'était un peu plus timide. Mais là, on voit vraiment que c'est dans les plateformes des 2 parties l'accessibilité, puis là, on peut être content de ça.
Il y a plusieurs axes qui ont été développés. En fait, vous avez proposé aux 2 candidats-candidats
trois axes importants en accessibilité universelle. Peut-être que vous pourriez un peu mieux nous les présenter, nous les résumer.
Oui. Bien, le premier axe, c'était sur la participation citoyenne. Parce que dans le cadre du sport, du loisir, c'est une participation citoyenne. Tu vas être traité comme tout le monde et tu vas avoir accès. Alors, on a posé des questions aux candidats sur la participation citoyenne. Comment l'organisation municipale va faire en sorte que son système réponde aux besoins des personnes qui ont des limitations? Parce que c'est systémique, hein? L'accessibilité universelle, si on n'en tient pas compte, si on ne donne pas la parole aux gens, s'ils ne peuvent pas aller dans les lieux pour s'exprimer, ben, on tourne en rond, puis il n'y a pas d'accessibilité universelle. Fait qu'on croit que ça prend des changements dans le système, puis on a posé des questions et on avait des attentes par rapport à ça. Qu'il y ait que les plans d'action sur l'accessibilité universelle soient pris au sérieux, que les élus soient impliqués, que les arrondissements soient impliqués, et aussi les paramunicipales, parce que c'est un enjeu aussi que nous avons à aller plus loin dans les paramunicipales.
C'est très important. Les paramunicipales sont très souvent oubliées, il faut le dire, dans la politique. On ne sait jamais si la politique d'accessibilité universelle s'applique à ces gens-là. Pourtant, les paramunicipales, c'est… on parle de qui, là? Nommez-moi quelques paramunicipales importantes pour qu'il y ait de l'accessibilité universelle à Montréal.
Pour Altergo, une des vraiment qui est dans notre mire, c'est le parc Jean-Drapeau. Le parc Jean-Drapeau, c'est une paramunicipale et ils ont un propre conseil d'administration. Ils ont un mandat de la Ville de Montréal de gérer, puis il vient aussi avec ce mandat d'autofinancer. Alors, quand ils ont des mandats d'autofinancement, l'approche est particulière, puis on a de la difficulté à vraiment faire la place pour l'accessibilité universelle dans ces installations-là. On va les rencontrer, mais ce qu'on apprécie, c'est qu'il y a maintenant… Qui dit politique d'accessibilité universelle dit aussi paramunicipale, parce qu'il y a eu un flou pendant quelques années, comme quoi la politique ne touchait pas les paramunicipales. Puis, il y a, légalement parlant, les paramunicipales sont aussi obligées d'embarquer. Fait que ça nous donne un levier qu'on n'avait pas avant. Puis, on sait, cet été, il y a des gens qui ont vécu des problèmes de discrimination dans des événements qui se sont tenus au parc Jean-Drapeau. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils changent, absolument.
Effectivement, on en avait parlé à l'émission, Kevin Breton, moi, à Canal Aime l'été, plusieurs situations, dont une jeune femme qui cherchait à assister à un concert au parc Jean-Drapeau et qui a vécu, disons, toutes sortes de problèmes. Donc, le parc Jean-Drapeau est aussi assujetti, selon votre analyse, selon ce que vous en savez, à la politique en accessibilité universelle.
Ils sont assujettis et suite aux difficultés qui sont présentées, nous, on a écrit avec Kéroul pour dire qu'il faudrait peut-être se rencontrer pour parler, pour changer les choses pour le futur. Puis il y aura une rencontre le 2 novembre prochain avec le parc Jean-Drapeau et aussi, ce qu'on apprécie beaucoup, Evenco, qui est l'organisateur d'événements. Alors, il faut aller plus loin, il faut sensibiliser aussi les organisateurs d'événements. La ville, le parc Jean-Drapeau, il y a des gens qui organisent des événements, puis il faut investir et former le personnel pour que les gens soient bien accueillis. On n'a plus le droit, dans les années actuelles, d'avoir une discrimination à son égard.
Et d'ailleurs, vous le nommez, Monique, j'allais dire Monique Vallée, je m'excuse, Monique Lefebvre, vous le nommez, il y a aussi cet axe-là de la sensibilisation, de la formation du personnel à la ville. Qu'est-ce que vous avez posé comme question aux candidats sur cet aspect-là très précis, très important?
Bien, ce qu'on voulait faire ressortir, c'est comment ils s'engagent à ce qu'il y ait de la formation. Alors, on n'a pas entendu un engagement formel à de la formation, mais on a entendu comment c'était important la formation. On a entendu Mme Vallée dire, ben moi, si je continue la formation, je vais aller dans toutes les équipes des arrondissements, je vais rencontrer les équipes d'élus pour les sensibiliser. Alors ça, c'est un geste positif. On est très content qu'elle soit allée de l'avant là-dessus, parce qu'il faut changer les mentalités. Changer les mentalités commence par la formation.
Puis d'ailleurs, souvent, on dit que c'est la première forme de discrimination, les attitudes. Donc, c'est important.
Exact. Oui, puis aussi, ben, la formation, c'est un des deuxièmes sujets, parce qu'on disait qu'on avait trois sujets. Oui. On a parlé des deux premiers. Le troisième sujet, c'est vraiment l'accès aux loisirs. Parce qu'on dit, oui, on veut que les citoyens qui ont une limitation aient accès comme tout le monde, mais pour avoir accès, ça prend des organismes spécialisés, ça prend de l'accès à l'information. Parce que souvent, on fait beaucoup de choses pour les personnes qui ont des limitations, pour développer des services, mais on ne leur communique pas que c'est accessible, qu'ils peuvent y aller. Alors, il y a un effort important, puis il y a eu des questions aussi dans ce sens-là. Comment vous allez faire pour communiquer avec les citoyens? L'élément de la ville intelligente est ressorti, le numérique, mais l'enjeu, c'est qu'il faut mettre les informations dans les systèmes. Alors ça, on a encore un bout de chemin à faire là-dessus.
En terminant, Monique oui. Lefebvre, vous avez reçu une distinction fort importante au niveau canadien. Vous êtes l'instigatrice du défi sportif, qui est un événement de grande envergure à Montréal. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire de la politique?
Non, on ne me l'a jamais proposé. Et ben, peut-être que j'envoie un signal que ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ne me l'ont pas proposé, mais je vous ai dit que ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Je pense que je suis la femme d'une cause, puis j'ose espérer être capable de faire encore plus, créer un chemin encore plus grand pour l'accessibilité universelle.
Monique Lefebvre, directrice générale d'Altergo, et aussi votre organisme a organisé aujourd'hui ce Café Rencontre. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
On ne sait pas toujours où cogner quand on sent qu'on a besoin des services juridiques. Avant même d'avoir besoin d'une avocate ou d'un avocat, on peut avoir besoin, disons, d'être informé, là, avoir une idée du tableau général ou ce dans quoi on s'embarque. Puis c'est pas toujours une bonne idée de commencer avec le beau-frère, hein, pour avoir l'information juste. Alors, avec nous, Maître Sophia M. Rossi, présidente du Jeune Barreau de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, désolé de vous ouvrir avec le beau-frère, mais je vous rassure, on n'en parlera pas aujourd'hui. on s'adresse à vous puisque le Jeune Barreau de Montréal, le GBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique, vont concocter une clinique juridique. De quoi il s'agit, Maître Sophia M. Rossi?
Ben, en fait, la clinique juridique téléphonique, nous en sommes cette année à notre 29e édition.
Alors, ah oui, c'est bravo.
C'est un service que l'on offre à la population à travers le Québec. Donc, tout le monde peut téléphoner et c'est en fin de semaine, le 14 et le 15, entre 9h et 16h30. Et il y a des avocats et des notaires bénévoles qui sont disponibles pour répondre aux questions de la population. Alors, on a des avocats et des notaires spécialisés dans toutes sortes de domaines. Alors, la personne téléphone, elle expose sommairement la nature de son problème et il y a quelqu'un qui va la référer à l'avocat spécialisé qui pourra ensuite lui donner des conseils juridiques.
Ah, mais ça, c'est très bien. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment accès à des spécialistes, que ce soit le droit du travail ou les droits et libertés. Il y a des notaires ou des avocats spécialisés dans ces domaines qui nous répondent.
Oui, tout à fait. Oui, en fait, parce que les questions qu'on reçoit sont quand même assez diverses. On peut recevoir des questions, justement, comme vous le mentionnez, qui touchent le droit du travail. Ça peut être également des questions sur les successions. Ça peut être également des questions en droit criminel et pénal. Alors, c'est important d'avoir des spécialistes qui sont en mesure de pouvoir bien cerner le problème de la personne qui téléphone et de pouvoir la conseiller et de l'aider.
Et on mise, j'imagine, sur des réponses concrètes, tout en expliquant que c'est pas complet, là, mais on répond quand même de manière concrète.
Oui, tout à fait. En fait, l'avocat qui répond au téléphone va demander à la personne d'exposer la trame factuelle de son problème et va lui donner une réponse à sa question.
Okay.
C'est sûr que c'est pas une représentation devant les tribunaux, c'est pas une opinion juridique complète. Par ailleurs, il y a plusieurs questions qui pour lesquelles les avocats sont en mesure de répondre et qui peuvent régler le problème à la satisfaction là, de la personne qui téléphone.
Combien de temps vous passez à peu près ou ça peut représenter combien de temps une consultation?
Il n'y a pas de temps limite sur la consultation parce que, en fait, l'avocat connaît le droit. Par ailleurs, le justiciable qui téléphone connaît les faits de son problème.
Ouais.
Et le droit n'est pas toujours appliqué de la même façon. Il faut toujours l'appliquer à la lumière des faits. Donc, c'est sûr que généralement, on essaie de passer à peu près une vingtaine de minutes au téléphone avec une personne, mais il y a des questions qui peuvent être plus complexes. Donc, à ce moment-là, la consultation va peut-être être un petit peu plus longue. Ça dépend toujours du problème qui est exposé par la personne qui téléphone.
Donc, dans le fond, ce que vous recommandez, c'est que la personne se prépare un petit peu avant d'appeler.
Oui, exactement. C'est de se préparer et d'avoir les faits, de pouvoir les expliquer clairement à la personne qui va répondre et de poser sa question directement. Là. Donc, de nous expliquer qu'est-ce qu'elle recherche exactement, qu'est-ce qu'elle veut savoir, puis quel est le service, en fait, comment est-ce que l'avocat qui répond au téléphone peut l'aider.
Supposons, là, je présente un cas assez classique, femme dans la 50-60aine qui travaille, donc une situation comme forme d'arthrite, une fibromyalgie, enfin sa santé se détériore un peu, elle doit changer des choses dans son travail, tout ça, elle vit des situations d'intimidation, enfin bref, ça survient au travail le problème. Est-ce que la personne pourrait exposer ça de cette manière-là, dire qu'elle travaille là depuis un moment, que ça arrive, puis qu'on ne veut pas lui donner de nouveaux emplois? Est-ce que quelque chose d'aussi courant pourrait exposer un avocat ou un notaire?
Oui, tout à fait. Et ben là, dans ce cas-là, ça serait probablement un avocat en droit du travail qui serait appelé à répondre. Et à ce moment-là, l'avocat pourrait la conseiller, pourrait lui indiquer que, par exemple, si une personne est porteuse d'une maladie, ben l'employeur aurait une obligation d'accommodement, peut-être, dans son cas, ou pourrait la référer, si on parle d'une situation d'harcèlement au travail, de discuter avec cette personne-là des dispositions qui sont prévues dans la loi sur les normes du travail qui protègent les salariés contre le harcèlement psychologique au travail, par exemple. Okay. Alors, oui, une situation comme ça qui serait exposée pourrait donner lieu à une opinion, à des conseils juridiques de la part de l'avocat qui va répondre à la question.
Et donc, est-ce que les gens ensuite sont référés à des services juridiques? Est-ce que vous pensez aussi à des services juridiques après qui sont tout aussi accessibles, peut-être pas gratuits, là, mais plus accessibles?
Oui, tout à fait. En fait, le service que l'on offre, ce qu'on veut faire aux jeunes barreaux de Montréal, considérant qu'on est un organisme à but non lucratif, dont la mission est en partie d'assurer, de promouvoir l'accès à la justice, c'est sûr qu'on fait notre bout de chemin et on tente d'aider la personne. C'est sûr que c'est pas tous les problèmes juridiques qu'on est capable de solutionner avec un appel seulement. Alors, on va rediriger les personnes vers des services qui sont des services qui peuvent être des services gratuits ou d'autres services qui peuvent être des services payants. On peut tout simplement dire à la personne, écoutez, votre problème, il est quand même assez important. On vous conseille d'aller voir un avocat spécialisé dans tel domaine parce que bon, vous avez un recours ou bien vous êtes poursuivi. Puis pour assurer votre bonne défense ou pour assurer vos droits, on vous recommande fortement d'aller voir un avocat. Là. Ben, alors, écoutez, ça va dépendre des situations.
Bon, voilà. Donc, on le voit bien, c'est à géométrie variable. Tous les besoins pour être comblés en partie et bon peut-être même certains en entier. Je vous rappelle que ces cliniques juridiques qui sont proposées par vous, le Jeune Barreau de Montréal, de 9h à 16h30 durant ces deux journées, c'est-à-dire lesquelles déjà? Le
14 et 15 octobre.
14 et 15 octobre. Il y a un numéro de téléphone où il faudra appeler. Est-ce qu'on peut seulement y accéder par téléphone?
Oui, c'est seulement par téléphone. C'est un numéro sans frais. Je peux vous le donner.
Allez-y.
1-844-779-6232. Donc, 1-844-779-6232.
Maître Sophia M. Rossi, présidente du Jeune Barreau de Montréal, merci beaucoup, non seulement pour votre présence, mais pour votre événement.
Bien, merci à vous de nous avoir invités à votre émission.
C'est un plaisir.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Le scrutin dans nos municipalités aura lieu le 5 novembre prochain. Il faut prendre des nouvelles de la campagne dans la capitale nationale. Et pour ce faire, notre collaborateur Michel Bédard, producteur et animateur de l'émission Les Capés sur CKIA 88.3. Syntonisez après l'émission, s'il vous plaît. Bonjour, Michel.
Salut, Benoît.
Ça va bien?
Très bien, toi.
Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous sentez la bourrasque électorale fort dans la capitale?
Effectivement, oui, ça bouge beaucoup, mais malheureusement, très, très peu pour les personnes handicapées.
Ah ben.
Il y a trois partis principaux. Il y a Équipe La Bombe, maire sortant Régis La Bombe. Il y a Démocratie Québec et il y a Québec 21. Dans les trois cas, la proportion de trucs pour les personnes à mobilité réduite, handicapées, appelez ça comme vous voulez, est très, très faible. Je commence par Équipe La Bombe. Eux, dans leur... en fait, moi, j'ai posé des questions dans le but, justement, d'en parler à mon émission. Et pour ce qui est d'Équipe La Bombe, ils m'ont répondu, en gros, qu'ils allaient adapter leur site web c'est-à-dire aux personnes qui ont une difficulté de vision.
Hey là là. Ben, c'est heureux quand même parce que c'est un des moins pires. La semaine dernière, Vincent François est venu à l'émission pour analyser le site de Jean-François Gosselin et le site du maire Labombe. C'était le moins pire des deux, mais il n'y avait pas vraiment un fort score. Là. C'était pas si fort que ça. Là.
Non, et d'autant plus que ça fait partie du plan d'action de la Ville de Québec qui a été adopté en juin dernier, que d'améliorer le site web.
OK.
C'est un peu spécial comme engagement électoral que de faire ça quand c'est déjà dans ton plan d'action.
Effectivement. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le maire Labombe ou que l'équipe Labombe propose à part ça?
Absolument rien d'autre.
Et là là.
Absolument rien d'autre. Pour ce qui est de Démocratie Québec, il dit que Québec est effectivement en retard et que dans les programmes qu'ils ont adopté en mai dernier, ils désirent accroître le soutien aux initiatives communautaires et des organismes de promotion dans une perspective de collaboration équitable. Bon, c'est un peu n'importe quoi.
Mais Démocratie Québec, c'est un peu la gauche. Là. C'est le parti plus à gauche des trois.
Effectivement. Okay. Mais ce que je trouve intéressant de Démocratie Québec, c'est qu'ils ont un candidat qui est non-voyant.
Ah oui!
Dans Vanier Duberger. Je trouve que c'est un point fort pour eux. Malheureusement, il n'y en a qu'un dans les trois partis principaux qui a un handicap. Pour ce qui est de Québec 21, eux me disent clairement qu'ils prévoient rien, mais qu'ils sont sensibles à notre réalité et que dans les projets futurs, ils vont porter une attention particulière pour ce qui est des aspects adaptés et des mesures compensatoires. Donc, en gros, c'est encore là. C'est pas grand-chose.
C'est pas très fort. Ouais. Michel Bédard, on a lu la nouvelle. Justement, le parti dont vous parlez, équipe Jean-François Gosselin, Québec 21, prévoit réinstaurer mur à mur le virage à droite pour favoriser la circulation. On le sait que c'est très risqué, c'est très dangereux pour les personnes aveugles puis d'autres personnes aussi dans la situation. Est-ce qu'ils vous ont parlé de ça?
Aucunement. J'ai eu aucune information à ce niveau-là. Si ce n'est que ce que vous rapportez, qui est déjà dans les médias, comme de quoi qu'ils veulent mettre parler du virage à droite. Puis personnellement, c'est une très mauvaise idée, extrêmement dangereux. Comme vous dites, pour ce qui est des personnes non-voyantes, mais aussi en fauteuil, parce que s'il faut se tourner vers la gauche pour regarder si quelqu'un s'en vient, qui lui va virer à droite, après ça, pour faire une manœuvre, pour traverser la rue en question, c'est beaucoup de déplacements. Ça devient complexe là, comme situation.
Ben écoutez, on espère aussi que les autres municipalités du Québec vont entendre. Virage à droite, non, c'est pas bon. C'est ça, on le sait. Il y a un quatrième et un cinquième parti. En fait, deux autres partis sont inscrits aussi aux listes électorales. Et dans un de ces deux partis-là, c'est-à-dire, je retrouve le nom, Option Capitale Nationale, il y a un candidat en situation de handicap. Qui s'était déjà présenté d'ailleurs pour d'autres partis, M. Mainville. Est-ce que Pascal Mainville, est-ce que vous en entendez parler à Québec?
Absolument pas.
Hey boy.
D'ailleurs, j'ai appris qu'il se présentait quand on s'est parlé un peu plus tôt ce matin, vous et moi. C'est comme ça que je l'ai appris. J'avais entendu la rumeur comme quoi M. Méville devait se présenter, mais malheureusement, il n'y a eu aucune annonce officielle ou quoi que ce soit. J'ai visité le site web de Option Capitale Nationale tout juste avant qu'on se parle. Il n'y a aucune mention de ça non plus. Il n'y a absolument rien pour ce qui est de la candidature de Pascal Mainville. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans leur plateforme électorale, ils disent, entre autres, qu'ils veulent rendre accessibles tous les moyens de transport en commun à toutes les personnes utilisant toutes les aides techniques à roues.
Wow.
À roues est à discuter, là. Mm-hmm. Mais ça, c'est une chose. Puis, ils veulent également hausser le financement du transport adapté.
Ben écoutez, ce sont de bonnes nouvelles. On le sait que le transport, c'est souvent la priorité pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient aveugles ou qu'elles aient une déficience motrice. Je vous pose la question avant qu'on se quitte, Michel. C'est quoi l'enjeu? On a parlé du transport, là. C'est quoi l'enjeu que vous croyez qui est le plus important pour les personnes en situation de handicap à Québec?
Ben, je veux juste terminer sur l'enjeu du transport.
Oui, ben allez-y, excusez-moi.
Malheureusement, oui. Option Capitale Nationale est comme un quatrième ou cinquième parti.
Ah ouais.
Donc, le fait qu'il soit bas dans les intentions de vote, malheureusement, c'est des vœux pieux là, qui sont un peu tristes. Pour revenir à votre question, pour ce qui est des souhaits, les enjeux principaux, je dirais que c'est au niveau des accès au commerce dans les rues commerciales. C'est vraiment une énorme problématique. Et il y a un développeur, un travailleur immobilier qui possède beaucoup d'immeubles et qui refuse systématiquement de rendre ses immeubles accessibles. C'est systématique.
Ça me fait penser à ce que disait jadis Linda Gauthier alors qu'elle était activiste. Ça mérite une petite poursuite. Surtout si c'est un seul propriétaire là, qui a beaucoup d'argent. Non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait d'accord, mais encore là, mais tu sais, nous, à Québec, on prônait au départ la communication, la discussion et tout.
Okay.
Là, actuellement, avec ce promoteur immobilier-là, on est rendu à l'aspect poursuite. Mm-hmm. On est rendu là. Mais ça fait quand même 3 à 4 ans qu'on travaille à essayer de rentrer en communication avec ce promoteur-là pour qu'il rende ses immeubles accessibles. Et il veut rien savoir. Mm-hmm. Il nous répond même plus.
Et là. Ben, ça fait pas mal de travail à faire, en tout cas pour vous qui êtes de l'émission Les Capés sur CKIA au 88,3. Michel Bédard, merci beaucoup. On souhaite des bonnes élections quand même.
Tout à fait. On s'en reparle le mois prochain.
On s'en reparle bientôt, oui. À bientôt. Merci, Michel.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Libre.
L'organisme, c'est une question sérieuse. Beaucoup d'organismes et surtout l'AQPPT, l'Association québécoise des personnes de petite taille, œuvrent depuis longtemps pour qu'on reconnaisse ce handicap et aussi qu'on change les perceptions, qu'on change la culture. Donc, pour mieux comprendre, pour mieux ressentir ce qui se passe dans ces situations, on va parler plus tard avec un réalisateur et un membre de l'organisme. Donc, le réalisateur, c'est Christian Lapointe et Alexandre Ruffin, le réalisateur, et Christian Lapointe, qui est aussi membre du conseil d'administration de l'AQPPT et qui participe à un documentaire. Mais avant de passer au documentaire, et d'ailleurs, documentaire pour lequel on a des extraits sonores pour vous, Il faut quand même rencontrer Karine Villeneuve, directrice générale de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Bonjour Karine.
Bonjour Benoît.
Et Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale, toujours à l'AQPPT.
Bonjour.
Alors, ben merci d'être là. Je sais qu'on ne vous avait peut-être pas dit qu'on avait déménagé.
Oui.
Mais là-là.
Oui, ça a été une lutte contre la montre, mais on a réussi.
Mais vous êtes valeureuse, puis vous avez réussi à faire mentir la circulation difficile à Montréal. En quelques minutes, vous êtes arrivée à bon port.
Mm-hmm. Oui.
Bon, OK. Alors, parlons maintenant du mois. Oui. Parce que la raison pour laquelle on parle du documentaire puis du nanisme, c'est que vous en êtes à votre cinquième édition du mois sur le nanisme. Oui. Alors, rappelez-nous ça, Karine Villeneuve.
En fait, le mois du nanisme, pour faire une petite histoire courte, ça vient d'un désir en premier de notre organisme depuis des lunes. Que c'était, on voulait, pour justement faire comprendre aux gens qu'est-ce que vraiment le nanisme comme un handicap à prendre au sérieux, mm-hmm. on passait une journée, une semaine. Et là, plus le temps passait, un organisme un peu homologue, Little People of America aux États-Unis, mm-hmm. depuis 2009, s'était lancé dans ça pour reconnaître le mois d'octobre, mois du nanisme. Un peu comme on a le mois de l'autisme, le mois de ci, de ça, justement pour ramener le nanisme dans qu'est-ce qu'il est vraiment, mm-hmm. une condition particulière à prendre au sérieux.
Oui. Et c'est important de le faire parce que le problème souvent, c'est que les gens qui en parlent le plus du nanisme, c'est les maudits humoristes. Je suis désolé, je fais une sortie, là. C'est pas pour rien que vous utilisez ce terme-là, parce que vous voulez être capable de dépasser ces clichés puis ces choses qui font mal.
La problématique chez nous, c'est que justement, c'est, vous savez, bon, on parle souvent le mot nain, souvent les gens veulent nous interpeller, êtes-vous pour ou contre. C'est pas qu'on est contre le mot nain. On ne l'utilise pas parce qu'on veut mettre l'enfance, sur la personne.
Oui.
Parce que le mot nain, qu'on le veuille ou pas, oui, c'est pas une question de political correctness. Ça renferme des stéréotypes. Mm-hmm. Ça nous ramène à des choses qu'on n'est pas.
Ça te ramène dans le passé. On pensait en être sorti, mais
c'est
pas
ça,
toujours le cas, on
dirait. Ben c'est ça. Les lutins, que ce soit les personnages mythiques, tout ça. Et aussi, ça ne parle pas de la vraie condition. Nous, là, parce que souvent, les gens, tu sais, nous trouvent... Oui, c'est vrai que les gens nous trouvent cute, ils nous sourient, puis ça a un côté un peu sympathique, mais à la base, on a des conditions sérieuses. On a, nous, des maladies rares qui vont infecter soit des maladies osseuses, hormonales ou organiques qui vont, oui, bien sûr, affecter notre taille qui est beaucoup plus petite, mais on a plein d'autres caractéristiques qui vont nous limiter dans notre vie, des malformations. La plupart beaucoup de nos membres vont devoir avoir des chirurgies quand même assez sérieuses. On n'est pas juste petit, on a des maladies, c'est ça.
Qui sont associées à la condition.
C'est ça.
Mais donc, c'est un travail que vous faites depuis longtemps. Vous, l'AQPPT, ça fait combien de temps que vous êtes?
41 ans.
41 ans?
Oui, qu'elle existe. Nathalie et moi, ça fait longtemps. Nathalie, justement, fête son 30e anniversaire comme membre.
Bravo, Nathalie Labelle.
Moi, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Ça fait longtemps qu'on connaît le sujet, bien sûr.
Ouais.
Mais c'est ça. C'est toujours travailler de changer le regard. Parce que c'est peut-être ça l'aspect le plus problématique. Nous, c'est le regard qu'on porte sur nous. Même parmi les personnes... les autres personnes handicapées. Mm-hmm. Pour bien des gens, on travaille, nous, Nathalie et moi, dans le milieu, même des gens militants, des gens dans le milieu ne voient pas que c'est une condition sérieuse.
Parce
que, justement, le stéréotype est tellement fort que c'est...
Même les gens qui devraient être sensibilisés...
Ben, les gens ne se rendent pas...
Ben, parce qu'ils ne vous entrent pas dans la famille du handicap.
Ne reconnaissent, exactement. Ne reconnaissent pas le nanisme comme un handicap, comme plein d'autres handicaps, parce que nous... Quand on parle d'handicap, c'est des situations de handicap. Oui. Donc, nous, tout ce qui est accessibilité, adaptation, Karine a parlé de maladies, souvent osseuses, organiques, hormonales, mais nous, on a comme trois aspects dans le nanisme, c'est les adaptations, tout ce qui est accessibilité, l'environnement, que ce soit à l'école, au travail, pour faire notre épicerie, à la maison. Donc, on vit quotidiennement des situations de handicap, de non-accessibilité.
Oui, parce qu'on a accès au métro par rapport à une personne peut-être qui est en fauteuil, Mais les gens ne réalisent pas les efforts qu'on va faire.
Les escaliers.
Mmh. Les escaliers, la hauteur. Les marches longues.
Oui,
les
vous
longues
vivez
marches,
plus de risques. Votre sécurité est plus souvent compromise. Et en plus, vous devez faire des efforts tout au long de votre vie beaucoup plus importants.
Puis donc, étant donné qu'on a des problèmes osseux, ben de marcher, nous, quand vous faites un pas, nous, on en fait trois.
Oui, voilà.
Donc, à la fin de la journée, on a marché trois fois plus. La hauteur d'une marche... c'est trop haut pour nous. Donc, ça fait des déhanchements au niveau des hanches, des genoux, de la colonne. Donc, ça amène beaucoup de douleurs. Quand on est opéré, qu'on marche avec des béquilles, avec des cannes, il y en a qui tu sais, on est éligible pour le transport adapté. Donc, il y en a qui font appel au transport adapté, pas les métros, les autobus. Avant, ouais. là, d'avoir les planchers, les autobus à plancher surbaissé, puis que l'autobus arrêtait dans un banc de neige parce qu'il y avait de la neige.
Moi, ça vous était complètement inaccessible.
Moi, je grimpais à genoux dans l'autobus parce que c'était comme inaccessible, mais j'avais pas le choix. Donc, c'est pour ça que les gens, on dit des fois, venez marcher dans nos souliers une journée de temps, puis vous allez voir c'est quoi, mais c'est ça, les gens prennent pas conscience.
Donc, votre mois de sensibilisation permet... de réexpliquer ça année après année. Je vous poserai la question avant de passer à notre réalisateur et à M. Lapointe. En 6 ans, c'est votre 6e édition, là? En 5 ans?
La 5e édition cette année.
Est-ce que vous trouvez que ça a évolué? Est-ce que ça va mieux?
Ben, c'est sûr
le regard,
que,
au moins.
Ben, c'est sûr que les choses ont changé depuis... On parle de 10 ans, parce que de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus sensibles à la différence. Ça, on le voit, Nathalie le voit quand elle va dans les écoles. Les gens, à cause des émissions de télé, je veux dire...
Mais le discours sur l'inclusion fonctionne aussi.
Oui, mais par contre, il y a encore des blocages. Il y a encore des... C'est dur de faire avancer, surtout les gens, peut-être plus les plus âgés. Tu sais, ça m'arrive encore de pas se m'assister avec des journalistes qui... Ouais. qui ne veulent pas comprendre pourquoi on ne veut pas avoir l'étiquette nain puis l'impact que ça peut avoir sur notre communauté. Fait que c'est un peu le côté réfractaire. Et c'est surtout que les gens n'ont pas conscience du regard qu'ils ont face à nous.
Le regard face à vous, c'est un très bon moyen d'aller vers Alexandre Ruffin, réalisateur du documentaire « Le nanisme, un handicap à prendre au sérieux ». Bonjour, Monsieur Ruffin.
Bonjour, vous allez bien?
Ben oui, très content que vous soyez avec nous. Vous avez collaboré notamment avec Christian Lapointe, qui est membre de la QPPT et qui siège aussi au CA. Bonjour, M. Lapointe.
Ben bonjour à vous tous.
Oui, donc rappelons à M. Lapointe que vous êtes, en situation d'handicap. Vous voyez, ça rentre tranquillement. Vous êtes en situation d'handicap et votre enfant aussi doit composer avec le nanisme. Est-ce que c'est correct?
Oui, oui.
OK, parfait.
C'est beau.
Alors, je m'adresse à vous deux d'emblée. Alexandre Ruffin, est-ce que c'était difficile de faire ce film? Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à changer un peu le regard en braquant votre caméra sur cette situation?
Je dirais premièrement que je suis extrêmement fier d'avoir eu la chance de rencontrer toutes ces belles personnes qui se sont livrées devant la caméra, qui ont participé à ce projet. Je dirais que j'ai été tellement bien encadré dès le départ par l'association la sélection des personnes aussi, tous les sujets que nous allions aborder dans le film. Fait que non, j'ai toujours été en confiance. J'ai pas trouvé de difficulté à réaliser ce film. J'ai au contraire appris beaucoup, humainement parlant, puis sur la condition du nanisme aussi. Fait que c'est une expérience assez incroyable pour moi, très très humaine, extrêmement humaine.
Et d'ailleurs, l'humanité traverse votre film. Ça serait peut-être heureux d'entendre un peu. Avant, je vais juste le situer pour les gens qui nous écoutent. Donc, il est possible de retrouver ce film sur le site de l'AQPPT.org. Donc, allez retrouver, là, ça s'est mis en avant. Mais aussi, si vous osez aller sur YouTube, moi, je vous recommande d'écrire « Le nanisme, un handicap ». Vous allez le trouver tout de go. Et si vous permettez, tout le monde, on entend un petit extrait.
Je pense que c'est d'être créatif dans la vie qui fait qu'on peut atteindre tous nos buts, tous nos objectifs, peu importe la condition qu'on a. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir, puis il faut accepter la différence, accepter que c'est difficile, accepter que c'est pas comme tout le monde. mais c'est possible.
Alors, le nanisme, un handicap à prendre au sérieux, est-ce que la différence, c'est ça qui nous marque le plus quand on croit ce sujet, Alexandre Ruffin?
La différence, c'est une très bonne question. Moi, je fais 6 pieds 3.
Oh!
c'est que je vis à une autre échelle.
Oui.
Ce que les personnes atteintes de nanisme peuvent ressentir aussi.
Vous êtes un peu grand, je trouve, en tout cas.
mais en fait, c'est ça, effectivement. Parfois, moi-même, je ressens un certain regard de la part des autres, ouais. Un regard de différence. Les voitures sont souvent trop petites pour moi. Quand je vais voir un spectacle, je gêne tout le monde ou alors je n'ai pas assez de place. C'est un sujet déjà de prime abord qui venait me chercher moi-même personnellement. Et puis c'était mon objectif principal toujours dans mes films, c'est principalement de laisser la parole, de donner la parole aux gens pour qu'ils se sentent valorisés puis surtout compris. C'est pour ça que c'était important de passer beaucoup de temps en entrevue, et je pense que en voyant le film, les personnes se sont senties représentées et écoutées. C'était ça mon objectif premier.
De la parole au geste, j'ai envie de faire entendre encore un autre extrait. Je rappelle, le nanisme, un handicap à prendre au sérieux.
C'est juste de mettre les gens en contexte, puis je pense qu'il faut le faire de façon proactive. Quand on voit un regard, des fois, juste de mettre rassuré plus que moins, si on a l'énergie de le faire, si on a envie de le faire, on peut le faire, comme ça crève l'abcès tout de suite, puis on passe à autre chose.
On donne la parole à Christian Lapointe, qui participe aussi à ce film, mais qui a certainement dû composer avec les préjugés, avec le regard. Christian Lapointe, vous êtes aussi père de deux enfants, dont un garçon de 5 ans, Rémi, qui a
un acondoplastie.
Merci. et vous avez la même maladie. Est-ce que c'est difficile, ce regard-là, qui est posé sur vous, sur votre fils? Comment vous vivez ça encore aujourd'hui?
Ah, ben c'est ça. Moi, j'ai toujours vécu avec le regard des autres. Dès que je sors de la maison, je sais que je vais me faire regarder. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on compose avec ça. Donc, c'est sûr que quand j'ai eu mon garçon qui est de petite taille comme moi, c'est sûr que j'ai dû faire face à des regards des autres en me disant, oui, bon, lui, il commence dans la vie, il commence là-dedans. C'est sûr qu'il va avoir à faire face à bien des regards, bien des jugements. Mais sauf qu'on est dans une autre époque, on est dans une autre société qui fait que, oui, les gens sont un petit peu plus ouverts. C'est pour ça que j'ai accepté haut la main ce projet-là. Quand on m'a approché, j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit oui, c'est un sujet intéressant. Puis oui, j'embarque là-dedans pour que je puisse faire avancer un peu les choses. Puis quand j'ai embarqué dans ce projet-là, Alexandre nous a mis tout de suite à l'aise. Puis j'ai dit oui. Puis ça serait un bon moyen justement pour que mon garçon avance dans la vie puis pour aider les choses.
Donc, c'était un geste pour lui, beaucoup, que vous avez fait.
Ben principalement, oui, pour lui, parce que moi, je veux dire, rendu à l'âge adulte, je sais comment ça fonctionne la vie, je sais comment ça fonctionne la société. T'sais, lui, il commence dans la vie, t'sais, il commence, là, il vient de commencer l'école, donc déjà, avec ce film-là, ça, je trouve que ça va faire beaucoup avancer les choses.
Alors, on rappelle d'ailleurs qu'on peut le voir et sur le site web occupé.pt.org et sur YouTube en repérant le nanisme handicap. Écoutez, j'aurais aimé ça passer plus de temps encore avec vous, mais j'invite les gens à aller voir le film. C'est certainement un bon moyen d'être sensibilisé. Et là, je me retourne, si vous permettez, vers Karine Villeneuve, la directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Karine Villeneuve, vous faites quelque chose de spécial jeudi le 19 octobre?
Oui, on va à l'Assemblée
nationale.
L'Assemblée nationale.
Ah oui, parce qu'il ne faut pas juste convaincre le grand public, les décideurs aussi.
Parce que nous, depuis le début, on a le projet de le faire reconnaître de façon officielle. On continue, on va être là, on va tenir un kiosque dans le hall de l'hôtel du Parlement pour rencontrer tous les députés, les ministres, là, pour sensibiliser justement à notre condition, les rencontrer, puis... Puis aussi, au niveau de...
C'est la deuxième fois que vous faites ça, hein?
Oui.
Vous étiez allé déjà.
Oui, la première fois, justement, quand on a commencé nos démarches, en 2013, on a eu l'aide de notre députée de l'époque, Mme Françoise David, là, qui avait vraiment embarqué dans notre projet, qui nous avait beaucoup épaulé là-dedans.
Je vous dis d'ailleurs, il y a un scoop, il est censé avoir quelque chose pour les personnes handicapées aux prochaines élections. Je le dis comme ça. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est une démarche qui n'est pas simple. Est-ce qu'il y a d'autres partis qui ont, disons, été sensibilisés depuis? Est-ce que vous sentez un appui sur la question du nanisme comme handicap, reconnu comme handicap?
Bien, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail. Oui, je crois que les gens ils peuvent comprendre, mais quand même, il faut, même le handicap en général, parce que qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on va parler du nanisme, mais vous savez, c'est tout le principe des personnes ayant des limitations fonctionnelles au Québec. Il faut continuer à justement nos luttes sur l'accessibilité universelle, sur notre participation sociale. Fait que, là, on le fait de notre angle à nous, mais je veux dire, c'est un peu comme l'extrait que vous avez fait passer de justement la maman de Clémence, Isabelle. Qu'est-ce qu'on aimait beaucoup du regard que a pris Alex dans notre film. Tu sais, ça allait au-delà du nanisme. Ça montrait une image. C'est souvent
des rapports humains.
Des rapports humains, mais c'est quoi le handicap? Souvent, ouais. Les gens voient ça comme... C'est juste des défis. Nous, on pose avec des variables, des défis un peu différents que les autres concitoyens, mais un coup qu'on a les choses pour les compenser, je veux dire, on est...
Vous êtes en mesure de faire
des personnes
les mêmes choix
à part entière. Et c'est toujours ça qu'il faut marteler, parce que on est encore un peu traité second ordre, là, un peu partout. Puis là, vous le dites, là, on prend de plus en plus la parole dans les débats politiques là, pour justement les élections municipales. On a eu une représentante, une conseillère, peut-être, je sais pas, qui vit la condition.
Il y a déjà eu une personne en situation d'handicap d'élu au municipal, mais là, il y en a plusieurs candidats.
Mais c'est ça, ça fait partie un peu de ces démarches-là, dans le fond.
Vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Je dois vous remercier, Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale à l'OQPPT. Merci d'avoir couru jusqu'ici.
C'est correct.
Ben, merci beaucoup de l'invitation.
Oui, merci à vous.
Karine Villeneuve, directrice de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Merci. On avait aussi au téléphone Alexandre Ruffin, le réalisateur du documentaire « Le nanisme, un handicap, apprendre au sérieux ». Il faut aller visiter ça sur YouTube ou sur le site de l'OQPPT. Et Christian Lapointe, membre de l'OQPPT, qui figure dans ce film. Merci à vous deux.
Merci à vous. Merci à vous tous.
Merci à vous tous. On rappelle aqppt.org. Octobre, c'est aussi le mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques à Montréal et c'est la 6e édition de, disons, quelque chose comme la célébration. Avec nous, Marine Gaillard, coordonnatrice des programmes au CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, qui est aussi membre d'Altergo. Bonjour, Marine Gaillard.
Bonjour, Benoît.
Ben, content que vous soyez avec nous, surtout qu'à l'habitude, c'était beaucoup Altergo qui portait la sensibilisation ou la promotion de ce mois-là. Donc, oui. Le CIVA s'ajoute dans la danse, si je comprends bien.
Oui, en fait, on fait partie, le CIVA, des organismes membres d'Altergo et c'est vraiment les organismes membres qui offrent des activités dans les différentes bibliothèques à Montréal pour le mois de l'accessibilité universelle.
OK. Donc, vous proposez vous-même des activités dans ce mois précieux. Est-ce que je vous pose quand même la question de manière générale, pas juste comme membre d'Altergo, mais comme acteur de la culture du loisir adapté. Est-ce que vous avez constaté une évolution de l'événement depuis 6 ans? Est-ce que vous trouvez que ça va mieux depuis 6 ans?
Oui. Il y a vraiment de plus en plus d'activités qui sont offertes. Toutes les années, on voit des nouvelles activités offertes. On voit vraiment que la mission de sensibilisation auprès du grand public de cet événement dans les bibliothèques porte ses fruits. Et on voit aussi une plus grosse fréquentation des bibliothèques par les personnes qui ont une limitation fonctionnelle.
Donc, on voit pour vrai une augmentation, on constate ça, dans les bibliothèques, mais pas seulement aux activités prévues pour elles, de manière
générale. En
général,
on peut aussi dire que les bibliothèques sont de plus en plus accessibles, que ce soit avec des rampes d'accès, les salles de bain, puis aussi tout ce qui est collection de livres en braille ou de livres en gros caractères, les livres audio, etc.
Ce qui est très important aussi. Est-ce que... Brièvement, est-ce qu'il y a encore des bibliothèques qui ne sont pas universellement accessibles ou pas accessibles?
Il y en a quelques-unes, mais je pense qu'on est le chiffre exact, c'est 90% à peu près des bibliothèques qui sont accessibles à Montréal. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près ça.
Okay.
Donc, c'est quand même très bon.
Donc, surveillons ce qui se passe dans ce 90%. Disons, pointez-nous là, dans le programme des événements à ne pas manquer, peut-être même... Des événements que vous organisez vous-même, Siva.
Oui, ben nous, par exemple, on vient d'offrir là, en fin de semaine à la Bibliothèque de Rivière-des-Prairies un atelier pour les jeunes qui était vraiment de la sensibilisation à l'art. Donc, avec une personne qui a une déficience visuelle qui expliquait comment est-ce qu'elle elle peint. Puis c'est quoi ces petites techniques. Je sais qu'il y a aussi, par exemple, une nouveauté, un atelier de décoration de gâteaux. Pour des enfants qui ont, je pense que c'est TSA ou TDAH, je ne sais plus.
Là. Du spectre de l'autisme ou qui ont des troubles d'apprentissage.
Exactement.
Donc, ça doit être très, très structuré ou d'une certaine manière, on doit structurer l'activité.
Oui, c'est vraiment chaque organisme offre des activités en fonction de son expertise. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont conçus pour...
Donc, tous les publics sont un peu servis à travers Montréal.
Oui, exactement. Principalement, les enfants, ça s'adresse quand même beaucoup aux jeunes, en règle générale.
Ah oui?
Il y a beaucoup d'ateliers, pour les enfants. Il y en a aussi pour les adultes. Donc, vraiment, sensibilisation de la population générale.
C'est quoi les nouveautés de cette édition de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques?
Mais une des nouveautés cette année qu'on peut remarquer, c'est un atelier... sur le braille, qui est fait par un organisme qui au départ n'est pas pour des personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
Ah, mais c'est bien ça.
Donc, c'est vraiment... Oui, ben c'est ça. On voit vraiment l'inclusion qui commence à se mettre avec des organismes qui intègrent le mois de l'accessibilité universelle, alors qu'au départ, ce n'est pas une clientèle qu'ils desservent.
Ben oui, mais ce serait ça, l'inclusion réalisée. Ce serait que d'autres groupes parle de cette situation,
on y arrive tranquillement, ça commence.
Bon, ça commence, bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que moi, j'ai bien envie d'apprendre un peu mieux le braille, mais est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on peut pointer?
Oui, c'est vraiment très varié. Ça peut être des expositions d'art, ça peut être des conférences, des cafés-rencontres, donc c'est un petit peu plus pour les adultes. Décoration de cupcakes, comme je vous expliquais.
Ah, c'est des cupcakes!
Oui, c'est ça, exactement.
Ça, c'est le mot magique qu'il fallait prononcer.
Jeux de société adaptés. Donc, c'est vraiment très, très varié. Il y a des ateliers de théâtre aussi par l'Association québécoise des enfants qui ont des problèmes auditifs. Donc, vraiment pour la sensibilisation au langage des signes. Donc, c'est vraiment des activités variées pour toute la famille.
Siva, qu'est-ce que vous faites dans les prochaines semaines? Est-ce que vous avez d'autres activités prévues dans le cadre de ce mois?
Principalement, nous, on offre principalement des ateliers de démonstration en art.
OK.
Donc, c'est vraiment notre créneau depuis le début que le mois de l'accessibilité universelle existe. On offre ces ateliers-là qui sont très populaires.
Oui, ben c'est ça. Vous êtes beaucoup associés. Alors d'ailleurs, on voit très souvent des œuvres de vos artistes se promener. On peut même aller les voir sur Dominion où vous vous trouvez.
Exactement. Puis on va avoir une exposition là, pendant tout le mois de novembre à l'Hôtel de Ville.
Vous avez réussi à obtenir l'Hôtel de Ville en pleine élection. Bravo! Bravo! De quelle date à quelle date on peut voir ça?
Ça va être du 27 octobre au 25 novembre, exactement.
OK. Mais est-ce que vous avez pensé à nos amis aveugles? Y a-t-il une stimulation quelconque?
Il va y avoir plein de surprises.
OK, il va y avoir des surprises. Donc, ça va aussi, même si on voit pas l'art avec la vue.
Exactement.
On va dire ça comme ça. Donc, avant qu'on se quitte, rappelez-nous les dates importantes, en fait, ou jusqu'à quand ça se déroule ce mois-là?
Donc, le mois de l'accessibilité universelle, vraiment tout le mois d'octobre.
D'accord.
Donc, c'est déjà en cours jusqu'à la fin du mois.
Et pour avoir plus d'informations, pour le CIVA, on va où?
En fait, pour toutes les activités, vous allez sur le site internet des bibliothèques de la ville de Montréal, donc bibliomontréal.com/AU.
Ah, c'est important de faire le slash AU. Oui. Et bon, c'est évidemment possible d'aller là via mobile. Je vous le dis à vous, personne aveugle qui l'utilisez souvent. Mais tout le monde est invité. Hein. Peu importe qu'on soit en situation de handicap ou pas,
exactement,
on va trouver son compte.
Tout à fait.
Alors, pour avoir plus d'informations sur les intervenants et les organismes qui viennent à l'émission et aussi pour avoir le lien vers Bibliothèque Montréal, visitez la page de l'émission Accès libre, repérable sur canalm.vuesetvoix.com. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde avec nous. Il y en avait pour les élections, pour le mois des bibliothèques. On n'oublie pas non plus le mois du nanisme. Il faut reconnaître ceci comme un handicap pour que les personnes qui vivent avec le nanisme puissent avoir accès à tous les services auxquels ils ont droit et puissent mener la même vie comme tous les citoyens et citoyennes. Permettez-moi de saluer rapidement l'équipe. Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagnat aux communications, Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. La semaine prochaine, on se retrouve avec d'autres choses sur les élections. C'est Benoît Racette. À bientôt.